BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons dans la Drôme, chez le chocolatier Valrhona. L'entreprise a de très gros défis à relever à cause du changement climatique. Sécuriser l'accès au cacao dans les années à venir, décarboner ses transports et réduire son empreinte locale. Notre reporter Philippe Indolbeau est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons de nos grandes écoles de commerce dans la deuxième partie de l'émission. Est-ce qu'elles se sont mises à l'heure du changement climatique? Est-ce que les programmes ont vraiment évolué? Et est-ce que les étudiants et les professeurs suivent? Eh bien, on posera toutes ces questions justement à deux professeurs qui enseignent dans les écoles de commerce les plus prestigieuses, Aurélien Acquier de l'ESCP et Alexis de la Tour du Pin de l'ESSEC. Allez, BFM Climat, on y va. Et je vous le disais, on part donc aujourd'hui dans la Drôme, à Tain-l'Hermitage, chez Valrhona. Le chocolatier, vous allez le voir, est confronté à des défis climatiques existentiels pour pérenniser son activité, l'accès aux matières premières, la décarbonation de ses transports et la réduction de son empreinte locale. Philippe Indolbeau est sur place avec les équipes de Valrhona.
Allez, aujourd'hui, je vous emmène dans la Drôme, chez Valrhona, un des fleurons du chocolat haut de gamme. Dans un contexte de dérèglement climatique qui pèse déjà sur la production et la qualité des fèves de cacao, l'entreprise doit se réinventer pour garantir l'excellence de ses chocolats, réduire les émissions de CO2 tout au long, bien sûr, de la chaîne d'approvisionnement, gérer les ressources hydriques et énergétiques dans ces territoires. Voilà autant de défis stratégiques pour Valrhona. Alors on met le cap tout de suite sur la chocolaterie derrière moi pour en savoir plus.
En Côte d'Ivoire, au Ghana, la production a chuté. L'année dernière, la production a chuté de plus de 30%. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent 60% de la production de cacao mondiale. C'est des pays mitoyens. Donc quand les conditions climatiques ne sont pas favorables à la production de cacao, l'impact est sur le marché direct. Enfin, l'impact est très important. En 2024, l'année cacaoyère s'est finie avec moins 30% de production mondiale. C'est 462 000 tonnes de cacao qui manquaient sur le marché et qui a provoqué le boom du marché cacao qu'on connaît aujourd'hui. La disponibilité du cacao se pose effectivement. C'est pas seulement le prix, parce que Valrhona, nous ce qu'on cherche, c'est du cacao haut de gamme pour répondre à nos besoins. Donc il faut aussi que la qualité soit au mieux. Donc il faut qu'on ait un prix attractif, parce qu'on demande, nos exigences sont beaucoup plus importantes sur le terme de qualité aromatique, mais aussi de traçabilité des enjeux environnementaux et sociaux.
Bonjour Martine Gracioso.
Bonjour.
Merci de nous avoir accueillis sur le terrain, chez vous, enfin en tout cas sur le site de Valrhona dans la Drôme. Vous êtes la directrice générale de l'entreprise et vous êtes en plateau avec nous aujourd'hui pour qu'on vous aide à avancer sur ces défis climatiques. Et c'est Maximilien Rouet à vos côtés qui va s'en charger aujourd'hui. Bonjour Maximilien.
Bonjour Thomas.
Société de conseil adaptation. Maximilien, on rentre dans le vif du sujet. Là, on voit qu'on parle d'un défi absolument majeur pour l'entreprise. Sécuriser l'accès au cacao à la fois en quantité et en qualité, un point très important pour vous. Quel conseil vous pouvez donner à Martine sur ce sujet?
Alors déjà, je suis pas très inquiet pour Valrhona, mais en revanche, je suis très inquiet pour le chocolat mondial. Alors, le chocolat mondial, il est très localisé, on l'a vu, entre Ghana et Côte d'Ivoire à 80%. Et Ghana et Côte d'Ivoire ont toutes les catastrophes du monde en ce moment, accentuées par le changement climatique. Pour faire bref, la rente forestière n'existe plus, c'est-à-dire le fait de bénéficier d'un sous-sol forestier issu de la déforestation, ça ne marche plus, il n'y a plus de forêt à déforester. On a donc des cacaoyers qui arrivent un peu en bout de course, épuisés avec des engrais qui viennent remplacer cette rente forestière. Et à ce moment-là, le changement climatique arrive, permet à un champignon, à une maladie qui s'appelle le swollen hoof qui vient tuer les arbres de s'installer. Bref, là, le principal gisement de cacao mondial est en train de se suicider petit à petit sous la pression du climat.
Et malgré ça, vous n'êtes pas inquiet. C'est plutôt inquiétant.
C'est pour ça que ça m'inquiète.
Alors, voilà,
je ne suis pas inquiet parce que Valrhona est un acteur de qualité, à des volumes qui correspondent à son positionnement de qualité et a fait des choix de partenariat sur quasiment une dizaine d'années avec ses principaux fournisseurs qui sont choisis, on va dire, les uns après les autres. Donc, Martine a choisi avec ses collègues des endroits plutôt moins vulnérables au changement climatique que d'autres, des pratiques qui sont nettement plus protectrices au changement climatique que d'autres. Je vais en citer qu'une, au Brésil. Vous pouvez avoir la culture traditionnelle, on cultive du cacao sous le soleil comme du blé, ça, vous êtes très vulnérable. Et puis, par exemple, au Brésil, il y a une pratique qui consiste à cultiver le cacao sous les arbres de la forêt. Et donc, le cacaoyer produit moins, quatre fois moins, mais ça va pour du cacao de qualité. En revanche, le cacao est beaucoup moins vulnérable aux maladies, beaucoup moins vulnérable à la sécheresse. Et donc, dans ce cas, et comme les autres, le cacao de Vallerona peut être produit malgré le changement climatique, encore une fois, parce que ce sont des niches de production bien placées.
C'est ça, des niches. Martine Gracioso, le changement climatique, Maximilien l'a rappelé, est déjà là, avec des effets très concrets sur la production. Est-ce que ça vous est quand même arrivé, malgré votre stratégie de niche et les partenariats que vous avez mis en place, parfois de ne pas trouver le cacao dont vous avez besoin?
Bien sûr, c'est quotidien. C'est quotidien depuis notamment en fait l'année passée, on va dire ces 18 derniers mois. Les changements climatiques ont été encore plus impactants et on l'a vu, c'est-à-dire que malgré le travail de partenariat, comme tu venais de le dire Maximilien, on est sur des partenariats moyennes de 9 ans. Des partenariats intimes, on va sur le terrain, on décide de travailler avec des opérateurs en fait locaux, on décide de travailler sur de la qualité et on les connaît de façon spécifique. Malgré tout ce travail-là, on se retrouve avec des aléas climatiques qui impactent la qualité. Donc on refuse en fait des lots, mais on va surtout accompagner nos fournisseurs pour dire comment on peut travailler avec eux pour garantir en fait cette qualité. C'est un travail quotidien.
Très intéressant, et c'est vraiment l'avenir, très concrètement, de l'approvisionnement de votre entreprise dont on parle. On retourne sur une place avec Philippine, parce que vous avez ce défi majeur, mais vous en avez un autre, et là, pour le coup, partagé avec beaucoup d'entreprises, c'est la décarbonation de vos transports.
Deuxième défi, décarboner les transports entre l'acheminement des fèves depuis l'Afrique ou l'Amérique latine et la livraison des produits finis à travers l'Hexagone. Vallerona doit innover et expérimenter aussi de nouvelles solutions de mobilité un peu plus propres.
Nos actions en matière de décarbonation s'articulent autour de quatre axes. Le premier est le fait de réduire notre empreinte carbone sur le dernier kilomètre, avec notamment des mises en place de livraisons en véhicules électriques ou en vélo cargo, comme sur Paris. Le second axe consiste à maîtriser nos émissions aériennes avec, par exemple, la mise en place dans chacune de nos filiales de ratio maximum de commandes aériennes. Le troisième axe consiste à tester et innover des nouveaux modes de transport dans une logique de test and learn. Donc on a par exemple testé le transport vélique, donc un mode de transport plus vertueux qui permet des économies de l'ordre de 95% de CO2 par rapport à un porte-conteneur traditionnel. Nous avons donc testé le transport fluvial sur le Rhône pour transporter nos chocolats en conteneur reefer depuis Porte-les-Valence jusqu'à Fos-sur-Mer. Le dernier axe consiste, lui, à tendre vers une green supply chain avec la mise en place de nombreux projets comme un projet circulaire qu'on a lancé en 2020 qui vise à tendre vers le zéro déchet, donc qui s'appelle la consigne et qui consiste à livrer des chocolats dans un contenant réutilisable, lavable et bien sûr consigné. Et en parallèle, on essaie de favoriser également des transporteurs étant labellisés objectifs CO2, puisque nous sommes nous-mêmes dans la démarche Fret 21 depuis 2019 et que nous faisons partie des premières entreprises françaises à être labellisées.
Maximilien, on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été lancées, entreprises chez Vallerona sur cette question des transports, mais comment faire pour continuer à progresser là-dessus?
Je dirais, effectivement, beaucoup ont été faits. Le transport vélique, c'est le transport à la voile, dont les cargos à la voile, je ne sais pas si vous en avez vu beaucoup sur les océans, il n'y en a pas beaucoup, donc déjà chapeau bas à Vallerona de s'être engagé là-dessus. Ensuite, le transport sur le Rhône, petit clin d'œil, pourquoi ça s'appelle Vallerona, je l'ai appris grâce à vous, Martine. C'est parce que le long du Rhône, à une époque un peu plus lointaine, c'était beaucoup plus pratique de mettre les usines parce qu'on pouvait remonter le long du Rhône, d'où Vallerona, le long du Rhône. Donc beaucoup de chocolateries à l'époque. On reprend l'air du temps et aujourd'hui, je dirais, le principal conseil que je peux donner, c'est de faire savoir. Parce que là, on fait beaucoup, Vallerona fait beaucoup et lance beaucoup d'initiatives. Maintenant, il faut que ça soit exemplaire, il faut que ce soit connu. Et comme certainement ça coûte un peu plus cher, il faut que ça soit très bien connu. Voilà.
Et alors, ça coûte un peu plus cher, là vous me tendez une perche, Maximilien, tout ça prend un peu plus de temps peut-être aussi pour vos clients. On prend moins l'avion, on fait du transport à la voile, on fait du transport fluvial, ça va moins vite que prendre l'avion ou la voiture ou les camions, par la route quoi.
Ça demande de réfléchir sur toute la chaîne de valeur, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille ensemble en fait sur des anticipations de moments de consommation, donc ça c'est important justement de travailler en partenariat avec l'amont et l'aval. Juste pour revenir sur toutes les initiatives qu'on a présentées, c'est important pour moi de les faire encadrer avec les transporteurs, avec l'ensemble des parties prenantes et surtout de continuer le test and learn et de faire beaucoup de learn de tous les tests qu'on fait. Parce que c'est quand même ça, après, comme vous le disiez, le nerf de la guerre.
Tout ce qu'on teste ne marche pas forcément. Non. Allez, on retourne une dernière fois, et c'est bien normal, c'est la vie d'une entreprise. On retourne une dernière fois sur le terrain, parce que, enfin, pour parler en tout cas d'un des derniers défis que vous avez à relever, là, pour le coup, il est vraiment systémique, c'est réduire votre empreinte de votre entreprise, mais localement.
Dernier défi, l'entreprise veut réduire l'empreinte de son activité sur son territoire. Elle doit consommer moins d'eau et d'énergie dans un contexte de stress hydrique, adapter aussi son outil de production aux fortes chaleurs. Une nécessité pour continuer à fabriquer son chocolat d'exception malgré les aléas climatiques.
Quand il s'agit de transformer notre chocolaterie pour réduire son impact sur l'environnement, le premier point, ça a été de bien comprendre quel est notre impact. Et pour ça, de mesurer, de compter comment est-ce qu'on consomme nos ressources, que ce soit sur l'eau, l'électricité, le gaz ou la production de nos déchets. Et puis, on s'est fixé des objectifs à horizon 10 ans pour réduire notre impact environnemental. La troisième étape, ça a été de passer à l'action. Donc, par exemple, faire des investissements pour centraliser notre production de froid. Et du coup, en 10 ans, avec l'ensemble de nos actions, on a réduit de 40% notre consommation d'énergie, ce qui veut dire que par rapport à 2013, on consomme 40% d'électricité et de gaz en moins pour produire un kilo de chocolat.
Quand on parle d'ancrage territorial, pour Valrhona, c'est une réalité, hein, parce qu'on est là depuis plus de 100 ans. Alors, ça veut dire quoi si je parle d'ancrage territorial aujourd'hui? On a entendu parler de la chocolaterie avec Elisandre et de tout le travail qu'on fait pour améliorer l'efficacité opérationnelle de cette chocolaterie. Il n'y a pas que ça pour moi dans le travail de l'ancrage territorial. Il y a aussi le fait de réfléchir à comment j'accompagne au quotidien les collaborateurs dans leur engagement. Parce que je pense que les défis du climat, ce n'est pas juste une question d'expertise. Bien sûr, il nous faut des experts, mais il nous faut aussi beaucoup d'engagement de chacun des collaborateurs. Donc, on a ce deuxième volet dans cet ancrage territorial où on réfléchit sur comment est-ce qu'on améliore le bien-être au sein de cet établissement, de Daudet, de Guéronnais, ici, en fait, sur les terres de Tain-l'Hermitage. On travaille sur la mobilité douce. Donc, beaucoup de projets où on demande justement aux collaborateurs de réfléchir ensemble sur c'est quoi le lieu dans lequel ils ont envie de travailler. Et puis, troisième point qui est important dans l'ancrage territorial, c'est de bien travailler avec nos partenaires. Alors, c'est pas que des partenaires qui sont à côté. On n'a pas fait un compas. On s'est pas dit, je vais regarder les personnes, les entreprises qui sont juste à côté de moi. Ce sont des entreprises qui ont envie de faire bouger le territoire dans le même sens, qui sont conscients des défis climatiques qu'on doit tous, en fait, travailler, et qui ont envie de faire en sorte que ces défis climatiques, on les adresse ensemble, parce qu'ils ont conscience que seul, on n'y arrivera pas.
Alors, Maximilien, pour conclure sur ce dernier défi-là, on est pile poil dans ce que vous faites, l'adaptation.
Exactement.
Comment est-ce que Valrhona peut s'adapter localement à son territoire?
Alors, au-delà du territoire, je dirais le maître mot, c'est identifier les points de vulnérabilité le long de la supply, le long de la chaîne de valeur. On a commencé, on était au Brésil ou au Ghana, on finit, on est atteint. En pratique, le long de cette chaîne de valeur, il y a de multiples points sur lesquels le changement climatique va venir couper la chaîne. Le sujet aujourd'hui, c'est être capable de les identifier, je dirais quelque part en temps réel, pour pas subir, mais pour être en position de bien gérer l'avenir. Parce que le changement climatique, on le sait, il va taper dur.
Il va taper dur, et il tape déjà dur, les effets sont déjà là. Toute dernière question que j'ai pour vous là-dessus, Martine Gracioso, vous le dites dans le reportage, je me tourne vers d'autres entreprises qui partagent notre vision des choses et qui veulent avancer comme nous. Très concrètement, vous avancez avec qui? Localement, collectivement?
On avance avec les pouvoirs publics, nous avançons avec l'enseigne de distribution qui est juste à côté de chez nous, avec un hôpital, on avance avec des vignerons, puisqu'on a beaucoup de vignes autour de nous. Donc on avance avec toutes les personnes qui partagent le même projet et qui ont la même envie de réduire leur impact sur le territoire.
Et économiser la ressource.
Économiser la ressource, je peux l'utiliser, et puis surtout qui ont une vision commune effectivement de ce territoire.
Très intéressant, témoignage très intéressant, parce que ce sera le mot de la fin. Beaucoup d'entreprises veulent lancer un plan d'adaptation, mais ne savent pas comment faire, ont du mal à trouver les mots pour convaincre. Donc, je pense que votre témoignage sera très utile pour les dirigeants qui nous regardent. Merci à tous les deux.
Merci.
Maximilien Rouet d'Adaptation et Martine Gracioso de Valrhona. Allez, on a parlé chocolat. Ça tombe bien, c'est bientôt Pâques. On va parler maintenant de nos écoles de commerce. La transition climatique et la bascule de nos modèles d'affaires, ça passe aussi évidemment par la formation et notamment de nos élites et de nos futurs dirigeants. Mais est-ce que les grandes écoles se sont vraiment mises à la page? Est-ce qu'elles ont fait elles-mêmes la bascule? On va poser la question aujourd'hui dans BFM Climat à deux professeurs qui enseignent dans les écoles de commerce les plus prestigieuses. Bonjour Aurélien Inquiet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeur à l'ESCP et directeur de l'ESCP Sustainability Institute. Et avec vous, Alexis de la Tour du Pin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes le directeur de la chaire ESSEC Transition écologique. Aurélien, je commence avec vous. Et promis, pas de langue de bois, pas de greenwashing dans BFM Climat. C'est absolument interdit. Est-ce que les choses ont vraiment changé à l'ESCP? Est-ce que les programmes ont changé? Et si oui, comment? Qu'est-ce qui a changé?
Alors, je dirais, évidemment, les choses ont beaucoup changé. Après, tout dépend de la manière dont on les regarde. C'est-à-dire, le processus lui-même, il n'est pas terminé, hein, ça, c'est sûr. Mais il y a quand même des choses qui ont énormément changé. Je pense qu'il y a deux points qui ont énormément changé. D'abord, aujourd'hui, je pense qu'il est impossible de sortir de tous les programmes longs de l'ESCP, et puis je pense que c'est la même chose à l'ESSEC, sans être formé aux fondamentaux du changement climatique et des enjeux de transition écologique, question de limites planétaires et la manière dont ça impacte l'entreprise. D'accord. Dans nos écoles aujourd'hui...
Ça, tout le monde est formé à ça maintenant, dans vos écoles?
Ouais, typiquement à l'ESSEC, la mission de la chaire transition écologique, c'est d'organiser des rentrées climat, donc on a près de 2000 étudiants tous les ans qui rentrent, et qui vont passer par une formation courte pour démarrer sur les enjeux climatiques.
D'accord. Après, le challenge, ça fait partie du cursus de base, quoi.
Ouais, ça c'est vraiment la première brique. Après,
alors là, challenge, c'est une brique importante.
Il y a quand même plusieurs étages à la fusée. C'est important de bien mentionner ces différents étages. C'est-à-dire qu'effectivement, on a de la sensibilisation, mais aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des étudiants qui sont souvent sensibilisés, mais pas forcément tous connaissants.
Ah bah bien sûr.
Et ça, pédagogiquement, c'est un peu la problématique à travers laquelle, face à laquelle on doit travailler.
Ouais.
C'est-à-dire que nos étudiants ont déjà entendu.
Ils se croient connaissants d'ailleurs parfois.
Absolument.
Ça complique les choses aussi.
Ah oui.
Et donc, du coup, ils ont entendu parler de ces sujets-là, mais ils se pensent experts souvent. Et en fait, une partie de notre job, c'est de leur montrer qu'on croit savoir, mais en fait, on n'a pas du tout saisi l'ampleur du sujet et le fait qu'on est devant une lame de fond qui va complètement transformer le quotidien des managers, des dirigeants d'entreprise et qui est déjà en train de le transformer.
Absolument. Et alors, même question donc chez vous à l'ESSEC, qu'est-ce qui se passe sur ces sujets-là, qu'est-ce que vous faites?
Au-delà de la rentrée climat, le vrai challenge, effectivement, c'est les autres étages de la fusée. Mais le premier étage, en fonction des publics, c'est soit donner des bases scientifiques, soit les renforcer. Mais très rapidement, puisqu'il peut y avoir des effets de lassitude, etc., très rapidement, c'est donner à voir après le climat par secteur, puis par métier. C'est quoi la finance ESG? C'est quoi le marketing responsable? Donc, c'est vraiment rentré dans les sciences du management. Mais l'étage le plus complexe, qu'on va par exemple creuser en particulier dans le master spécialisé Sustainability Transformation, c'est comment est-ce qu'on rentre dans la transformation durable des entreprises. Mm-hmm. L'évaluation des stratégies climat, la mesure d'impact, la conduite du changement. On essaie d'aller aussi loin qu'on peut avec tous les programmes, mais avec les programmes spécialisés, évidemment, l'idée c'est d'aller encore plus loin.
Mais alors ça, c'est génial, parce que c'est des choses, enfin, sans trahir de secret, j'ai fait une école comme la vôtre il y a une vingtaine d'années, c'était absolument pas intégré au programme.
Pareil, c'était pas le cas, ouais.
Et ben voilà, non, mais c'est génial. Donc là, très concrètement, il se passe ça maintenant. Ouais. Comment réagissent les étudiants? Parce que vous le dites, certains sont sensibilisés, on voit beaucoup passer des vidéos, des remises de diplômes, etc. Enfin, on sent qu'il se passe quelque chose dans les écoles, mais est-ce que c'est représentatif de l'ensemble des promotions? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de se former à ces sujets-là? Là aussi, sans langue de bois, Aurélien Inquiet.
Ah, on est devant un univers qui est compliqué, en fait, et qui n'est pas homogène. En fait, et puis, il y a aussi, les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que si on fait un petit travail historique, en 2017-2018, les étudiants se sont un peu révoltés, en fait, et se sont plaints officiellement du fait que ces sujets-là, ils n'étaient pas enseignés alors qu'ils allaient transformer leur carrière académique.
Ouais.
Et en fait, aujourd'hui, on a fait le job et là, on est confronté à plusieurs types d'étudiants, quoi. Donc, il y a des étudiants qui vraiment souhaitent se former sur ces sujets-là. Mmh. Et alors, pour aller plus loin pour ces étudiants-là, nous, notre rôle, c'est aussi d'être un peu incubateur de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes qui n'étaient pas enseignés dans les écoles auparavant sur les sujets énergie, sur comment on conduit un bilan carbone, une analyse de cycle de vie, donc de rentrer dans la complexité des sujets. Donc ça, c'est plutôt à travers des trucs de spécialisation. Mais après, en fait, il faut aussi qu'on embarque tous les étudiants qui ont des niveaux d'attente très, très différents, avec de grosses différences aussi entre nos publics francophones et aussi nos publics internationaux.
Absolument, ça c'est une dimension effectivement très importante. Vos deux écoles sont très internationales aussi. Pareil, votre ressenti sur votre campus à vous, à l'ESSEC, vis-à-vis des étudiants?
Je dirais qu'il y a trois, ce qui se dégage maintenant, parce que ça fait 5 ans qu'on a intensifié, massifié la formation aux enjeux climatiques. Et aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Il y a 3 publics qui se dégagent. Il y a un public qui a envie d'aller plus loin. Et je dirais qu'ils ont un complexe d'imposteur souvent. Donc là, l'enjeu, alors oui, on leur donne des certificats sur le bilan carbone, former B-Leader avec B-Corp, EcoVadis, etc. Mais l'enjeu, c'est un moment, c'est de leur dire stop. Vous n'allez pas être des plus grands techniciens du monde. Il faut juste que vous parliez les langages. Mmh. Et après, rapidement, vous preniez de la hauteur sur ces enjeux-là.
Ouais.
Après, les publics internationaux, là, on a près de 40% internationaux. Là, c'est très différent parce que souvent, ils arrivent moins sensibilisés. Mais ils viennent de pays autrement plus touchés que la France. sur ce sujet. Donc, c'est hyper important pour pas qu'il y ait de décalage un peu gênant, qu'on internationalise nos contenus autour de ces enjeux.
Ouais, très intéressant. Et alors maintenant, on va parler de vous, les professeurs, parce que donc vous incarnez ce changement-là, cette rupture, cette bascule des programmes, mais vos pairs, les autres professeurs, est-ce que vous les dérangez? Est-ce que, parce qu'on voit bien que le climat, ça divise dans les entreprises, ça peut diviser en tout cas. Est-ce que là aussi, ça divise le corps professoral, Aurélien?
Sans langue de bois?
Ah bah oui. Ah oui, sinon on coupe, hein. Sinon c'est pas diffusé.
Non mais bien sûr, c'est des sujets qui polarisent énormément toute la société et le milieu des affaires aussi. Je veux dire,
on n'est pas
à l'abri. Ouais.
Je pense que tout le monde voit bien ce qui est en train de se passer au niveau international, aux États-Unis, etc. Et donc bien sûr, ces tendances de polarisation, elles traversent aussi nos écoles. Et alors nos écoles, c'est quand même des objets en termes d'organisation qui sont particuliers à transformer parce qu'on est une institution académique. Et dans une institution académique, en fait, on a une liberté académique. Enfin, en tout cas, en France, on l'a toujours aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est très, très important de voir comment on aborde ces sujets-là, qui sont un peu extérieurs à l'histoire de nos business schools, à l'histoire de l'économie aussi. Hein.
Ouais.
Comment est-ce qu'on les intègre sérieusement, sans violer la liberté académique? Et là, il y a un équilibre assez subtil à trouver. Mm-hmm. Je pense que chaque école expérimente aussi un peu sa propre manière de faire. Mm. Nous, une manière qu'on a défini pour ESCP Business School, c'est de créer un vrai département académique sur les sujets de transition écologique. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une trentaine de professeurs et doctorants qui sont spécialisés sur des sujets de la transition et donc qui vont servir à incuber un peu des nouveaux thèmes qui n'étaient pas dans le portefeuille de la Business School jusqu'ici.
Ouais.
Et ensuite, on se connaît et on a de ces éléments un peu de doctrine entre nous qui permettent de bien traduire en fait ce que nous disent les sciences du climat, de comprendre comment on va les appliquer à l'entreprise, et du coup ensuite d'engager des discussions avec des connecteurs dans les différents départements de l'école pour essayer de repenser l'enseignement des différentes disciplines.
Et Alexis, chez vous à l'ESSEC, vous vous sentez un peu seul ou vous arrivez à embarquer quand même une grande partie des professeurs?
Alors, on a une stratégie qui est un peu différente, donc c'est intéressant de voir un autre modèle qui a plutôt consisté à pas forcément avoir des entités centrales trop fortes, mais plutôt d'essayer d'essaimer au maximum. Donc, on a deux organes de gouvernance, un qui est multipartie prenante pour la stratégie, l'opérationnalisation des enjeux climatiques et sociaux, qu'on appelle le COCON, et à côté, on a une guilde avec les professeurs, on a appelé ça Sustainability Guild. Et là, l'idée, c'est de faire émerger des champions département par département qui, eux, vont essaimer côté recherche, côté pédagogie. Donc, aujourd'hui, on a à 33% des publications de recherche à l'ESSEC autour de ces sujets climatiques et sociaux. Donc, d'une certaine manière, ça fonctionne. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, évidemment, tous les enjeux de clivage et difficultés à transformer.
Et puis, il y a évidemment aussi plusieurs chemins. Hein. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il y a une manière de faire qui est la bonne, etc. Nous, on a pris cette option-là aussi parce qu'on a 5 campus en Europe et que c'était une manière aussi de coordonner tout ça en interne, d'avoir un département autonome. Mais effectivement, je pense que toutes les institutions académiques sont confrontées à ces questions et il n'y a pas une seule manière de travailler sur ce sujet.
Et alors, une note des parties prenantes, puisque c'est ça le sujet du climat, c'est les parties prenantes. Les entreprises, évidemment, les grandes écoles notamment, sont très connectées aux entreprises. Là aussi, qu'est-ce qu'elles vous disent par rapport à ça? Comment est-ce qu'elles regardent la bascule climatique de vos enseignements? Est-ce qu'elles se méfient? Est-ce qu'elles ont envie, au fond, que les étudiants changent? Qu'est-ce que vous avez comme feedback, comme retour des entreprises?
Alors, il y a un mot un petit peu fort que je vais utiliser, parce que c'est marrant d'être un peu provocateur de temps en temps, qui est que pendant longtemps, ils nous disaient, on reçoit des étudiants qui peuvent être un peu trop engagés, il y a un enjeu peut-être à les déniaiser. J'utilise ce terme de manière un peu provocatrice. Aujourd'hui, après quelques années de bilan, je dirais que on s'appuie énormément sur eux pour produire de cas, on s'appuie sur eux aussi pour essayer de comprendre de quoi ils ont besoin, c'est quoi l'étudiant de l'ESSEC. Suffisamment musclé sur ces sujets-là. Donc en permanence, en fait, on a des comités de perfectionnement, programme par programme, dans lesquels ils interviennent. Mais au-delà de ça, l'enjeu, c'est qu'ils ont besoin eux-mêmes de s'acculturer. Donc on travaille beaucoup avec les directions RSE pour former les managers, les cadres et même les dirigeants dans les entreprises. Donc la partie formation continue est au moins aussi colossale que la partie pré-expérience.
Ouais. Aurélien Hacquet, le mot de la fin pour vous, là-dessus, sur ces sujets-là, vous sentez que les entreprises, globalement, elles ont compris elles-mêmes dans l'ensemble et avancent avec vous? Ou est-ce que là aussi, est-ce que vous sentez qu'il y a un mur, quoi?
Je dirais que les entreprises, elles sont comme nos étudiants. Elles sont plurielles, elles sont variées. Et en fait, on a des entreprises qui sont vraiment à la pointe de ces réflexions-là. D'autres qui sont un peu plus, moins exposées, soit moins exposées à cette réalité, soit aussi en mode don't look up. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu la problématique dans laquelle on est au niveau de la société. On a tendance à ne plus vouloir regarder ces sujets-là. Mais en fait, je dirais qu'il y a quand même énormément d'entreprises qui ont bien compris que c'est pas parce qu'on décide, nos sociétés décident de moins regarder ces sujets-là qu'ils disparaissent.
Oui, qu'il se passe
rien. Ouais, parce que les mécanismes du changement climatique, c'est mécanismes biophysiques, quoi. Et donc, ces mécanismes-là, ils vont rester. Typiquement, ce que je pense, et ce qu'on voit apparaître, c'est que les formes d'action en matière de développement durable, elles vont se transformer dans les années qui viennent. Il y a un enjeu qui va devenir absolument majeur, c'est la question de l'adaptation au changement climatique. Je crois que tout à l'heure, vous parliez du cacao.
Tout à fait, absolument.
Et là, voilà,
absolument.
On a un exemple de l'agriculture impactée et par le changement climatique.
Tout à fait.
C'est un sujet absolument transversal qui va devenir fondamental dans les années qui viennent. Et là, typiquement, ben, nous, en fait, on ouvre tout un cycle avec notre institut Sustainability, un partenariat avec AXA Climate. Où en fait, on a travaillé pendant un an.
Antoine Karen n'est pas là aujourd'hui, mais il nous avec... en parlera.
C'est ça. Bah. Et du coup, on a travaillé pendant un an avec des entreprises pour essayer de comprendre comment elles définissent leur politique d'adaptation au changement climatique et essayer de les aiguiller aussi vers des grands enjeux de transformation. Et pour la simple raison que le changement climatique ne va pas s'arrêter lorsqu'on regarde ailleurs, je pense que ces questions-là, elles sont évidemment là pour durer.
Et je rejoins le lien sur le...
Ouais, alors vraiment en 10 secondes.
En 10 secondes, il y a un effet de cliquet qui a été atteint. Les entreprises, elles ne reviendront pas en arrière, mais ce qu'elles nous disent, c'est qu'il y a besoin de changer le narratif écologique. On ne peut plus l'affronter de manière frontale. Donc, elles parlent aujourd'hui de souveraineté énergétique, de robustesse, de résilience, d'adaptation. Effectivement, et tous ces chemins-là, en fait, c'est les mêmes.
Oui, mais bien sûr.
Mais
on met d'autres mots. Ouais.
Voilà, qui sont narrés.
C'est important de trouver les bons mots pour faire bouger les gens. Base des écoles de commerce au-delà du climat. Merci. Merci à tous les deux infiniment. C'était passionnant pour vos conseils et vos partages d'expérience. Aurélien Inquiet de l'ESCP, Alexis Latour-Dupin de l'ESSEC. C'est déjà la fin de BFM Climat. Merci. Merci surtout à vous toutes et tous qui nous regardez très fidèlement sur BFM Business. Merci aussi à la Convention des entreprises pour le climat, comme toujours, pour son aide dans la préparation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on garde contact sur notre appli en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.